C'est donc notre sixième leçon en ce lundi 26 du 10 de ce parcours La parole en parabole. Alors, vous vous souvenez de ce que nous avions fait jusqu'ici, une première leçon d'introduction, puis deux leçons consacrées au chapitre 13 de Saint Matthieu, parabole du semeur et puis les autres, et puis une quatrième leçon où en plus du grain levé, du grain qui lève, que le semeur dorme, veille, en Marc 4, on avait vu trois histoires où on sent qu'il y a des choix à poser. Les deux maisons, à la fin du sermon sur la montagne, l'une bâtie sur le roc, l'autre bâtie sur le sable. Celui qui bâtit sur le roc en faisant la parole du Seigneur Jésus qu'il vient dénoncer. Puis deux types de réactions différentes face à l'appel à la conversion. Les publicains, les prostituées répondent à l'appel à la conversion, tandis que un certain nombre dans cette génération, dit Jésus, n'y répondent pas, et c'était leur réaction illustrée par la parabole des enfants sur les places, que ce soit Jean-Baptiste qui prêche, que ce soit Jésus, eh bien, ne répondait pas à son appel. Et puis une troisième histoire de... Allez à votre place, je vais la distribuer. Une troisième histoire de, qui manifeste un choix, le départage entre les deux fils, celui qui dit d'abord non et puis fait oui, ceux qui se convertissent, et celui qui dit d'abord oui et puis fait non, ceux qui résistent à la conversion. Ça, c'était la quatrième leçon. Et puis la cinquième leçon, là, nous avons vu trois paraboles enchaînées qui manifestaient comment la parabole a un rapport avec le contexte. C'était chez Luc au chapitre 15, à l'adresse de ceux qui murmurent en le voyant accueillir les pécheurs, leur pardonner. C'était les trois paraboles de la brebis perdue, la drachme perdue, et puis le fils perdu et retrouvé, le ou les fils, les deux fils. Une brebis sur 100, une drachme sur 10, et un voire deux fils sur 2. Voilà, je vais donner les feuilles à ceux qui viennent d'arriver. Je ressaisis la portée de ce qu'on a vu la fois passée. On voit bien le rapport entre le contenu des paraboles et un certain contexte. Et parfois sur un point précis. C'était le cas en Luc 15, puisque Jésus dit à l'adresse de ceux qui murmuraient en le voyant faire bon accueil aux pécheurs. Mais le rapport entre la parabole et le contexte était déjà présent en Matthieu 13, discours en parabole, ou bien le petit discours en parabole qu'on trouve en Marc 4. En quel sens? C'est qu'il s'agit, au niveau du contenu de la parabole, d'histoires qui illustrent le don de la parole, sa croissance, sa réception, et le contexte, c'est précisément les foules sont là pour entendre la parole. Que ce soit sur le rivage, comme dit Matthieu, que ce soit sur la terre, dit Marc. Donc il y a déjà un certain rapport général entre le contexte des foules qui sont là pour entendre la parole et le contenu de la parabole qui insiste sur la réceptivité de la parole et le fruit possible pour qui sait voir, entendre, comprendre et bien écouter. Alors dans un évangile, dans le fil du récit, on trouve déjà, à l'intérieur de certains épisodes narratifs, des paroles dans les échanges entre Jésus et des protagonistes, par exemple. Des paroles qui interviennent dans un dialogue. Mais dans un évangile, on trouve aussi des paroles qui interviennent de manière prolongée, si je puis dire. C'est-à-dire une parole où Jésus monologue longuement. C'est ce qu'on appelle un discours. Jésus enseigne plus longuement. Par exemple, ce qu'on appelle les discours chez Matthieu. Et chez Matthieu, ces longs discours interviennent en alternance avec des passages qui sont narratifs avant tout. On va y revenir pour situer la parabole du débiteur impitoyable qu'on lira et qui intervient dans un passage de discours. Alors, les paraboles, elles mettent en scène des histoires avec des personnages, des précisions de temps, de lieu. Un homme sorti le matin pour embaucher des ouvriers, le lieu c'est pour sa vigne, et puis à telle heure, il y a des personnages, il y a les premiers embauchés, les autres, les derniers, les ouvriers de la 11e heure. Autrement dit, tout comme dans le récit sur la scène de l'évangile lui-même, il y a des personnages, il y a Jésus, il y a Jean-Baptiste, il y a un lépreux qui s'approche, et des choses qui se passent à certains moments, à certains lieux, à l'intérieur de la parabole, qui est un récit dans le récit, donc le récit parabolique intervient dans la bouche de Jésus à l'intérieur du récit que je dirais évangélique, le récit global que constitue l'évangile. Donc on voit que dans l'un et l'autre récit, parabolique et évangélique du contexte, il y a des personnages, des situations. Et il y a justement un rapport entre les deux. Établi et qui est bien mis en valeur par l'évangéliste qui recompose, qui nous rappelle, qui nous fait entendre une parabole de Jésus, pas n'importe dans quel contexte, mais à un moment du récit, justement, où ce qui est dit à l'intérieur du récit parabolique doit éclairer la situation des personnages qui sont dans le récit, environnant le récit évangélique. Vous voyez ce que je veux dire. Hein? Les récits paraboliques, c'est Jésus qui raconte. Le récit évangélique, globalement, c'est l'évangéliste qui raconte que Jésus arrive à tel endroit, à tel épisode. Et la parabole, c'est dans la bouche de Jésus, un espèce d'épisode, non pas sur la scène immédiate du récit, mais à portée symbolique, parabolique justement, et qui doit éclairer le contexte. Donc le récit parabolique doit éclairer sur ce qui se passe sur la scène du récit évangélique, plus large si je puis dire. Spécialement les attitudes, les façons d'agir, de réagir des personnages paraboliques doivent éclairer, interpeller, les attitudes, les façons d'agir, de réagir des personnages qui sont en train d'écouter la parabole. Il y a comme un processus d'identification des auditeurs à tel ou tel personnage pour adhérer à son comportement ou au contraire comprendre qu'il doit se départir de ce comportement-là. Songez à un exemple que vous connaissez très bien et qui est tout à fait parlant à ce sujet. Lorsque le roi David a péché, le prophète Nathan s'amène et commence par lui raconter une histoire et dont David ne soupçonne pas encore qu'elle est une parabole de ce qu'il est en train de faire. Un homme n'avait qu'une brebis, une pauvre petite brebis, et son voisin qui était riche trouve quand même à lui voler son unique brebis. David, c'est scandaleux. Puis au moment où le prophète lui dit « C'est toi cet homme ?» Paf, il comprend que l'histoire mise en scène est en train d'être une mise en scène de sa situation à lui. Et que c'est lui, cet homme, qui scandaleusement a été chercher l'épouse d'Uri par désir, et puis pour masquer son crime d'adultère, a perpétré un crime de meurtre. Et à ce moment-là, David prend conscience de la gravité de sa faute. Voilà un exemple de parabole énoncée à dessein et même conçue à dessein par le prophète dans un contexte donné pour faire comprendre à l'auditeur ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il fait. Et de même Jésus, lorsqu'il énonce une parabole il y a des paraboles qu'il crée au moment même, enfin quand on le voit tel que présenté dans le récit évangélique, qu'il crée au moment même et dont il a l'intuition, et la mise en scène qu'il élabore va devoir faire comprendre à ses auditeurs ce qu'il en est pour eux. La parabole des vignerons homicides, mais ils vont comprendre à un moment donné qu'il les dénonce comme étant prêts à aller jusqu'à tuer le fils de la vigne. Et Matthieu ajoute à ce moment-là, les pharisiens et les grands prêtres avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Ceci pour ressaisir, je dirais, la force du genre parabolique qui n'est pas indépendant du contexte dans lequel il est énoncé, mais qui sert justement à faire avancer les choses dans le récit évangélique, à promouvoir des changements d'attitude des auditeurs de Jésus. Venons-en maintenant, si vous voulez, après cette manière de reprise, mais qui vaut pour beaucoup, la plupart des paraboles. Il n'y a pas de paraboles qui sont énoncées comme ça, un peu en l'air, indépendamment de la situation dans laquelle Jésus est en train de parler et des personnes auxquelles il est en train de s'adresser. Alors, je vous propose aujourd'hui de prendre deux histoires qui ont trait à la réalité du pardon et des dettes remises. Ça sera une parabole chez Matthieu et puis une parabole chez Luc. Alors je vous ai mis le texte sous les yeux. Je prends d'abord chez Matthieu, donc le texte que vous avez sur la page 22. Je le situe d'abord, donc Matthieu 18. Où sommes-nous? Je vous disais, nous sommes à l'intérieur d'un discours de Jésus, et à un moment donné, dans son propos, pour répondre à une question, il va énoncer une parabole. Il y a eu jusqu'ici, dans Matthieu, le sermon sur la montagne, premier discours. Un discours d'envoi en mission, chapitre 10, deuxième discours. Le troisième, qui est le central parmi les cinq, vous en souvenez, c'était le discours en parabole au chapitre 13. Et puis, voilà un quatrième discours, chez saint Matthieu, qui est dit parfois le discours ecclésial, communautaire, ou à la communauté, parce qu'il vise à faire comprendre aux disciples et à Pierre quel est l'esprit qui doit régner dans la communauté chrétienne. On voit le début du discours qui est bien marqué. En cette heure-là, les disciples vinrent auprès de Jésus en disant « Qui, en fait, est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus va répondre, je vais revenir. Et puis, le propos va être lancé par une deuxième question. Et la deuxième question, dans ce discours, ça va être une question de Pierre. Pierre, dont Matthieu souligne volontiers les initiatives. Si c'est vraiment toi, fais que je vienne à toi sur les eaux. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre est souvent celui qui prend un peu la parole de son propre chef ou au nom des autres. Alors, la question de Pierre, c'est au verset 21. Alors, venant auprès de lui, Pierre lui dit, « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il envers moi et lui pardonnerai-je jusqu'à cette fois ?» Jésus donne l'essence de la réponse. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Et il enchaîne sur une parabole qu'on trouve comme telle que chez lui. En raison de ceci, le royaume des cieux est assimilé à un roi, etc. Voilà comment démarre cette seconde partie du discours, si je peux dire, à la faveur d'une question de Pierre. Et quand Jésus aura fini son discours, on aura une formule qui le signale bien, ça sera le premier verset du chapitre 19. Il arriva, quand Jésus eut fini ces paroles-ci, qu'il émigra de la Galilée et vint vers les territoires de la Judée, de l'autre côté du Jourdain, et le suivirent des foules nombreuses. Donc il y a un déplacement de lieu et on passe à autre chose, à une section narrative. Ça, c'est pour situer un peu où ça intervient dans le chapitre 18. Alors, dans la première partie du chapitre, à la question qui est le plus grand dans le royaume des cieux, Jésus répond en insistant d'abord sur justement cet esprit d'attention au plus petit qui doit régner dans la communauté. Il prend un petit enfant au milieu d'eux, invite à devenir comme des petits enfants, puis plus loin il fait un pas de plus, ne pas scandaliser un seul de ces petits qui croient en lui. Et il termine ce passage en invitant à ne pas mépriser un seul de ces petits-ci, car je vous le dis, les anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. Et à ce moment-là, dans cette première partie de son discours, Jésus énonce déjà une petite parabole, la parabole de l'homme qui a 100 brebis et qui en perd une. C'est là qu'elle intervient chez Matthieu, pour insister sur le respect, l'attention due au plus petit, comme à la 100e brebis. Et il conclut, « Ainsi, ce n'est pas la volonté devant votre Père qui est dans les cieux que se perde un seul de ces petits-ci. » Vous voyez que Jésus termine cette partie du discours sur l'attention au plus petit en mentionnant la volonté du Père dans les cieux, dans lequel Matthieu insiste vivement. Puis on commence à approcher la question du pardon qui va faire l'objet de notre parabole. Jésus continue, « Si ton frère pêche, eh bien pars, réprimande-le, cela seul, et puis, vous savez, prends un autre. Et s'il refuse d'entendre aussi avec l'autre, eh bien dis-le à la communauté de l'Église, etc. » Et de là, Jésus dit, « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Et puis il glisse à les deux ou trois témoins qui sont venus intervenir près du frère, à deux ou trois qui se mettent d'accord sur la terre au sujet de toute affaire qu'ils demanderont, si deux d'entre vous se mettent d'accord sur la terre, eh bien cela leur arrivera chez mon Père qui est dans les cieux. Donc ici le point d'assistance, le premier point d'assistance c'était l'attention au plus petit, ici le point d'assistance c'est comment ramener le frère égaré et de manière communautaire, ecclésiale, et quitte à ce qu'on comprenne que ce sur quoi on peut se mettre d'accord pour prier, ça peut être la conversion justement du frère qui résiste, en l'occurrence, dans le contexte. Mais de nouveau, en insistant, Jésus termine en disant, « Deux ou trois, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, tout comme l'évangéliste avait dit qu'il a pris un petit enfant au tout début et l'a mis au milieu d'eux. » Donc, rapport, Jésus au milieu d'eux et qui insiste sur le petit enfant au milieu d'eux. Et Jésus qui a aussi peut-être lui-même cette simplicité de l'enfant. Là-dessus, deuxième partie, venant, enfin, ou troisième moment, si vous voulez. L'attention plus petit, le souci du frère qui s'égare, et puis maintenant la question du pardon. Qui va se terminer aussi par la mention du Père, hein, au verset 35. Vous voyez comment c'est un leitmotiv récurrent. Dans considérant les rapports entre nous, les rapports de nous avec lui, Jésus, souvent, immanquablement, remonte au Père. Dans l'évangile de Jean, c'est tout à fait frappant. Il y a toujours un moment où, dans un long dialogue, Jésus nous amène à son Père, le Père céleste, le Père des cieux. Mais Matthieu aussi, souvent, le fait à sa manière. Ceci dit, venant auprès de lui, Pierre lui dit, « Seigneur, combien de fois mon frère passera-t-il envers moi et lui pardonnerai-je ? Jusqu'à 7 fois, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Pour les rabbins, on pouvait aller jusqu'à 3 fois. Pierre pose la question jusqu'à 7 fois. Et Jésus répond pas 7 fois, mais 70 fois 7. En Genèse, au chapitre 4, 24, il est question de vengeance de Caïn. Et puis d'un autre personnage, Lamech, qui a des paroles de vengeance terribles. Et Dieu dit pour C'est-à-dire que Caïn sera vengé 7 fois. Et Lamech, 77 fois. Et Jésus, ici, répond, non pas 7 fois, non pas 77 fois, mais 7 fois 70 fois. Donc, il manifeste que à l'encontre de l'offense, et même de l'encontre de l'offense violente, il faut pouvoir pardonner, comprenons, à l'infini, indéfini. Et à l'appui, alors, il donne la parabole. En raison de ceci, le royaume des cieux a été assimilé à un homme roi. Donc, ça rentre dans la catégorie des paraboles du royaume. Tu vas dans le chapitre 13, vous vous en souvenez, c'était toujours « Le royaume des cieux a été assimilé ». Et voilà, dans l'esprit du royaume des cieux, il se trouve assimilé à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Le terme doulos, un serviteur, mais qui peut désigner aussi parfois un serviteur de haut rang. Et comme il commençait à le régler, un débiteur de 10 000 talents. Je ne sais pas si j'ai corrigé la copie, j'avais dans le texte, Frère Mathias qui disait 1 000 talents. Oui, j'ai corrigé ça, 10 000. C'est dans mon fascicule, il y a encore 1 000. Mais c'est bien 10 000. De 10 000 talents, fut porté auprès de lui. Alors un talent, ben, c'est une mesure de monnaie déjà beaucoup plus importante qu'un denier. Un talent, c'est 20 kilos d'argent. Alors, 10 000 talents, voilà, ça fait 20 tonnes. 20 tonnes d'argent. Autrement dit, une dette absolument incommensurable, faramineuse. Comme il n'avait pas pour remettre, on comprend, le Seigneur ordonna qu'il soit vendu. Vous voyez qu'on joue déjà sur le vocable Seigneur. Seigneur qui peut signifier le maître du serviteur, mais qui peut aussi désigner le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus. Au verset 21, c'est quand même comme ça que Pierre s'est adressé à Jésus. Seigneur, il ne dit pas, dans ce contexte-là, il ne dit pas simplement maître. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Et on va voir que toute l'histoire aboutit à montrer que notre Seigneur ultime, c'est notre Père qui peut nous pardonner si nous pardonnons nous aussi. Le Seigneur ordonna qu'il soit vendu, et sa femme et ses enfants, tout ce qu'il avait, et que la dette soit remise. Donc, la dette est remise, mais en attendant, il est réduit à rien, puisqu'il est vendu avec sa femme, ses enfants, tout ce qu'il a. Tombant donc, le serviteur se prosternait devant lui. Proscunen, c'est un verbe important, un verbe de prosternement, qui peut désigner dans d'autres contextes, l'image ou à la fin de l'évangile, un geste d'adoration, mais ici c'est un geste de supplication, on comprend, se prosternait devant lui en disant « Sois magnanime sur moi et je te remettrai tout. » Il sait bien qu'il ne pourra pas le faire, telle est la dette, mais il supplie. Ému aux entrailles, le Seigneur de ses serviteurs le délia et lui pardonna la créance. Donc il lui remet quand même une fameuse dette. Hein? Or, sortant, ce serviteur-là trouva un de ses co-serviteurs, qui lui devait à lui 100 deniers. C'est une certaine somme. Un denier, c'était le salaire d'une journée de travail, vous vous souvenez, les ouvriers de la 11e heure, hein, ils convainquent. Oui. D'un denier pour la journée. Donc, ce n'est pas une somme négligeable. Enfin, ce n'est pas non plus une somme insolvable. C'est 2-3 mois de travail. C'est considérable, mais il pourra s'en sortir si on lui remet sa dette. Se saisissant de lui, il l'étouffait en disant « Remets si tu dois quelque chose. » Tombant donc, son co-serviteur le suppliait en disant « Sois magnanime envers moi et je te remettrai. » Voyez le verbe un peu différent dans l'histoire. Il supplie son compagnon, tandis que l'autre se prosterne carrément devant le maître ultime. Supplier, sur magnanime, sa supplication est formulée dans les mêmes termes, et je te remettrai. Il est prudent, il ne dit pas « je te remettrai tout ». On peut penser qu'il a l'intention de remettre, mais alors que l'autre disait « je te remettrai tout », une dette insolvable, lui, il dit « je te remettrai ». Or, il ne voulait pas. Et s'éloignant, au contraire, il le jeta en prison, jusqu'à ce qu'il remette ce qui était dû. Étape suivante, d'autres personnages interviennent. Voyant donc ce qui était arrivé, ses conserviteurs s'attristèrent fortement. Venant, ils expliquèrent à leur seigneur tout ce qui était arrivé. Alors, l'appelant auprès de lui, son seigneur lui dit « serviteur méchant ». Ça, c'est un terme important, le méchant, le mauvais, dans l'évangile. C'est l'opposé du juste. C'est celui qui est serviteur méchant. Toute cette dette-là, et on se souvient, c'est les 10 000 talents, je te l'ai pardonné, puisque tu m'as supplié. Ne fallait-il pas que toi aussi, tu prennes pitié de ton co-serviteur? Ce que le narrateur nous a dit, il est ému de compassion, et ici, c'est lui-même qui qualifie son attitude en disant « Mais comme moi, toi aussi, ne fallait-il pas que tu prennes pitié de ton co-serviteur ? Comme moi aussi, j'avais pris pitié de toi. Ne fallait-il pas ?» C'est chez Saint-Luc que le « il fallait » désigne de manière très régulière la nécessité, si je puis dire, la dynamique du dessein de Dieu. Il faut faire ceci pour correspondre au dessein de Dieu. C'est moins régulièrement le cas chez Matthieu, mais on peut penser aussi qu'ici, ne fallait-il pas à quand même une force assez grande. Cela fait partie vraiment de la dynamique, de la conduite dans le royaume, et ici, de l'esprit de la communauté ecclésiale. Ne fallait-il pas ? C'est pas simplement, il convenait, il fallait. Que tu prennes en pitié ton co-serviteur, comme moi aussi j'avais eu pitié de toi. S'irritant, le Seigneur le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il remette tout ce qui lui était dû. Alors, on a vu que c'est une dette insolvable, donc ça veut dire que c'est quand même un châtiment durable, au moins qu'on puisse dire. Ainsi aussi mon Père Céleste fera-t-il si vous ne pardonnez pas chacun à son frère, là, du fond de vos cœurs. Là, il y a une dernière précision qui qualifie la qualité du pardon qui doit être donné. Alors, dans notre vie courante, ça veut bien que certains pardons sont difficiles à donner, et c'est parfois le temps de toute une vie, au moins, d'arriver à pardonner du fond de son cœur. Comme dit Saint Ignace, alors je fais une petite parenthèse plus spirituelle, si c'est difficile, on doit avoir au moins le désir du désir. Je voudrais bien pardonner, je t'offre au moins ce désir, même si... du point de vue de mon affectivité humaine, spirituelle, j'arrive pas encore tout à fait à pardonner. Mais mon Père Céleste vous fera-t-il si vous ne pardonnez chacun à son frère du fond du cœur? C'est ce à quoi nous sommes appelés. Alors la parabole, dans son application dernière, peut être rude, mais souvent la sévérité du jugement annoncé est à la mesure de l'enjeu qu'on est en train de déployer. Une manière de dire, c'est vraiment quand même pas un point accessoire de le pardon dans la communauté. Et ça rejoint évidemment la manière dont la fin du Notre Père, tel qu'on le trouve en Dieu, dit pardonne-nous comme nous aussi nous avons pardonné à nos débiteurs. Il va dire ici ou dans une homélie que dans le texte du Notre Père, c'est pas simplement comme nous essayons, comme nous voudrions, mais comme nous avons pardonné. Il faut déjà avoir accordé quelques pardons concrets pour comprendre ce que veut dire et se rendre apte à recevoir le pardon de Dieu lui-même. Voyez un peu comment la parabole s'insère dans son contexte. Ici, le contexte, c'est une demande précise de Pierre. C'est moins un contexte narratif où il ne serait dit que quelqu'un est là dans l'entourage qui est incapable de pardonner. Ici, c'est une réponse simplement à la question de Pierre, puisque Jésus, dans ce discours, avance, et ça c'est aussi le cas dans d'autres, à partir d'une question qui lui a été posée. le discours sur la fin des temps viendra se greffer sur une question. Vois-tu ce temple, la grandeur de ce temple? Jésus dit, un jour viendra où il sera détruit, et puis là-dessus, il entrait sur le propos sur la fin des temps. Ici, c'est à la faveur de la question de Pierre. Alors Jésus a bien écouté les termes de la question de Pierre. Hein? Non, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je? Combien de fois mon frère péchera-t-il? Il s'agit du frère. Pierre ne dit pas simplement quelqu'un ou un ami, c'est mon frère. Et Jésus répond, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Donc le terme frère encadre vraiment dans la question de Pierre et puis dans le point final de la réponse de Jésus. Et ce terme évidemment est particulièrement important puisque c'est en qualité de frère et sœur que nous sommes appelés à nous pardonner, et par définition des frères et sœurs qui sont enfants d'un même père. La dynamique de la paternité et de la fratrie sont liées, inséparables. Donc, le père souhaite pardonner à ses enfants, et mon frère aussi est un fils du père. Quand j'ai du mal à pardonner, je dois me rappeler que lui aussi est un fils du Père céleste. Ça sera dit autrement en Matthieu 25. Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà pour cette parabole à l'intérieur du discours de Matthieu et en réponse à la question de Pierre. Alors je vous montre une image qui l'illustre.
Dans le style naïf des enfants, je vais expliquer, je vous la montrerai un peu plus à gauche. Allez, voilà un serviteur qui dilapide le bien de son maître. On voit qu'il a une bourse trouée, il laisse partir le bien de son maître. Bon. Alors son maître qui est vêtu royalement, c'est un homme roi qui a confié ce bien de serviteur. Hein? Il n'a pas le regard très dur ici. Il est déjà en train de pardonner à ce débiteur insolvable. Mais voilà que ce même débiteur, qui a été gracié, on le retrouve, donc vous voyez ses traits, on le retrouve là-bas, face à un de ses compagnons, qui est vêtu de même. Et à ce moment-là, celui qui a été gracié et qu'on trouve là-bas, il est en train de saisir l'autre au cou, de l'étrangler, de l'égorger, en lui disant « Rends ce que tu dois ». Et ce qu'il lui dit est mis dans une espèce de bulle coloriée en gris. Et les compagnons, ils ont entendu et ils rapportent en gris à l'oreille du roi ce qu'ils ont entendu. La manière dont il se montrait intraitable avec son compagnon. Alors le roi, là-dessus, le livra au bourreau, là, vraiment, il a une tête de bourreau pour le coup, je vais vous montrer. Il est enchaîné. Jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Bon, c'est dans un style naïf, les enfants, c'est plein de réalisme, et ça suit le fil de l'histoire. C'est nouveau dans la série des paraboles faites par des élèves du collège sous la houlette de Madame Denise Hurtin. Ça doit être des enfants assez jeunes, elle travaille avec des jeunes de divers âges. Et parfois, quand elle travaille avec des jeunes adultes, même déjà, des enfants qui sont très doués, mais avec des jeunes adultes, il y a aussi dans les séries qui sont vraiment des merveilles.
Mais ça permet aux enfants d'entrer dans l'histoire. Les catéchistes savent bien qu'ils font colorier des dessins ou ici solliciter l'imagination. Comment est-ce qu'il va représenter le bourreau avec une grosse moustache? Nous prenons une autre parabole qui fait intervenir un peu la même thématique et qui cette fois-ci est liée plus directement à un contexte. Ici, le contexte était la question de Pierre, mais chez Saint-Luc, c'est au chapitre 7, et le texte se trouve sur votre page 23. un épisode qui intervient dans quel contexte? On a déjà eu l'occasion de l'approcher. On a parlé de Jean-Baptiste, les disciples qui font demander « Es-tu celui qui va venir ?» La réponse de Jésus, rapportée à Jean ce que vous avez vu et entendu, etc. Et puis on fait réfléchir « Qu'êtes-vous allé voir dans le désert ?» Un roseau agité par le vent, non, un prophète et plus qu'un prophète. Et là-dessus, on rappelle la position qu'ont eue vis-à-vis de Jean-Baptiste ses interlocuteurs. Le peuple ayant entendu, les publicains aussi justifièrent Dieu lorsque Jean prêchait, en étant baptisé du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les légistes méprisèrent le dessein de Dieu sur eux-mêmes en n'ayant pas été baptisés par lui. Et puis là-dessus, on a l'histoire des enfants sur les places. À quoi assimilerais-je les hommes de cette génération? Eh bien, ceux qui restent insensibles au chant de deuil prononcé par Jean-Baptiste n'accueillent pas son appel à la conversion. Et ils sont insensibles aussi à l'appel à la conversion donné par Jésus, qui le dit sur une autre modalité, en jouant des chants de joie pour entrer dans leur rêve. Voilà un peu le contexte. Et donc, on vient de nous rappeler que les pharisiens et les légistes ont méprisé le dessein de Dieu en refusant l'appel à la conversion. Et on nous met maintenant en scène un pharisien. Quelqu'un des pharisiens lui demandait qu'il mange avec lui. Et étant entré dans la maison du pharisien, il se mit à table. Il se couche à la table pour manger à la manière orientale. Les repas sont importants dans l'évangile de Luc et dans les actes. C'est toujours des moments où on est là, pas simplement pour se restaurer, mais où Jésus prend la parole. Et juste avant, on vient de rappeler la parole, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, mangeant du pain et buvant du pain, et vous dites, voici un homme glouton et ivrogne. Et puis on nous met en scène, reçu chez un pharisien, acceptant l'invitation et mangeant. Mais qu'est-ce qui va se passer au cours de ce repas? Et voici. Souvent la formule « et voici » peut introduire certes une parole de révélation divine, mais aussi plus simplement, narrativement, une étape narrative. Quelque chose advient. Et voici. Il y avait une femme, laquelle était pécheresse dans la ville, ayant reconnu qu'il se trouve couché dans la maison du pharisien, ayant apporté un vase d'albâtre de parfum, et s'étant placé debout par derrière, à ses pieds, pleurant, de ses larmes, elle commença à arroser sans cesse ses pieds, et des cheveux de sa tête, elle les essuyait, et l'embrassait ses pieds, et elle les enduisait de parfum. Quatre actions sont détaillées, la position de la femme, et puis elle pleure, et elle arrose les pieds de ses pleurs, elle essuie les pieds des cheveux de sa tête, elle embrasse les pieds, et elle les enduit de parfum. Vraiment des gestes très, très tactiles, très corporels, mais qui manifestent un grand désir d'approcher Jésus et de manifester son repentir signifié par ses larmes. Parce qu'il est quand même dit, étant placé derrière elle, à ses pieds, elle pleurait, et c'est le même verbe, nous chantâmes des chants de deuil au verset 32, et vous ne pleurâtes pas, juste avant. Donc ils ont refusé, eux, de pleurer pour leur péché. Et puis on met en scène une femme qui est en train de pleurer, d'abondance. Ayant vu cela, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, n'ose pas quand même faire sa réflexion trop haut. Celui-ci, s'il était prophète, connaîtrait de quelle nature est la femme qui le touche. Elle est pécheresse. Le toucher lui paraît de la part d'une femme connue comme pécheresse, vraiment scandaleux. Ayant répondu, Jésus dit à son adresse, « Simon, et là on apprend son nom, j'ai quelque chose à te dire. Rabbi, dit le carton. Un certain créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rendre, ni l'un ni l'autre, il fit grâce à tous deux. Qui d'entre eux donc l'aimera plus? Ayant répondu, Simon dit, j'estime que c'est celui à qui il fit grâce de plus. Marquez le choix du terme, faire grâce, qui est employé souvent pour nous signifier quand même l'ampleur de l'action divine en notre faveur. Il fit grâce à tous deux. Et Simon répond. Jésus dit, tu jugeas correctement. Et puis, s'étant tourné vers la femme, il déclara à Simon. Donc on voit que Jésus est en train de parler à Simon, mais en se tournant vers la femme. Et puisqu'il est invité chez le pharisien, les autres qui sont présents peuvent entendre. Tu regardes cette femme. Donc, il interroge sur la manière dont il regarde cette femme. Quel regard a-t-il porté sur elle? Tu regardes cette femme. Mais apprends à bien regarder. Tu la regardes en te disant toi-même, c'est une pécheresse. C'est scandaleux qu'elle le touche. Et lui, il n'est même pas un prophète. Hein. S'il était prophète, il saurait, il devinerait. Hein? Tu regardes cette femme. J'entrais dans ta maison. Alors vous vous souvenez des quatre actions qu'a posées la femme. Jésus reprend point par point. Hein? Donc, c'est comme si le langage de Jésus à Simon correspondait parfaitement à la façon dont le narrateur a dit les choses. Donc là on voit bien le lien très marqué de la correspondance établie entre le contexte que nous a raconté le narrateur et les verbes qu'il a utilisés et le contenu de la parabole qui vient maintenant dans la bouche de Jésus. D'eau sur les pieds, tu ne me donnas pas. Ce qui était le minimum qu'on pouvait faire aussi pour recevoir un hôte. Songez à l'accueil des hôtes par Abraham en Genèse. Tu ne me donnas pas. Et celle-ci, de larmes arrosa mes pieds et de ses cheveux les essuya. Donc, toi, tu ne m'as même pas donné du tout d'eau et elle m'a donné pas seulement de l'eau mais des larmes abondantes et sur mes pieds en les essuyant. De baisers, à la manière d'accueil oriental, le baiser, tu ne me donnas pas. Or, celle-ci, dès que j'entrais, n'arrêta pas d'embrasser mes pieds. D'huile, tu n'enduisis pas ma tête. Or, celle-ci, le parfum, enduisit non seulement ma tête, mais mes pieds. Okay. Grâce à quoi je te dis, et dans le grec, grâce à quoi, c'est pas nécessairement choisi par hasard, ou charis. Grâce à quoi, je te le dis, se trouvent remis ses péchés nombreux. Le premier débiteur, il avait une dette assez considérable, 500 deniers. Ses péchés nombreux. Donc Jésus ne nie pas qu'elle soit pécheresse. Et d'ailleurs, il fait comprendre à Simon qu'il avait bien compris. Cet homme, s'il savait qui le touche et que cette femme est pécheresse, il sait très bien qu'elle est pécheresse. Et il dit, ses nombreux péchés, il ne nie pas. Mais ses nombreux péchés lui sont pardonnés parce qu'elle aima beaucoup. Or, celui à qui peu est remis, aime peu. Il avait moins à se faire remettre, sans doute. Enfin, en termes de la gravité morale, où on jauge une pécheresse publique, et puis un pharisien, il avait peut-être moins à se faire remettre, mais il avait à se faire remettre. Il avait au moins une dette de 50 deniers. Et comme il a été dit, il était lui aussi insolvable. Tous les deux étaient insolvables. Il n'y a pas que celui qui avait une grande dette. Le second aussi. Donc lui aussi, s'il comprend bien, sinon, il était insolvable et il aimait peu. Il a aimé un peu parce qu'il a quand même invité Jésus à sa table, mais pas assez. Alors, grâce à quoi je te dis, je trouve remis ses péchés nombreux, parce qu'elle aima beaucoup. Or, celui à qui peu est remis, celui-là aime. Or, il dit, la femme, cette fois-ci, il lui dit, c'est un pronom féminin dans le texte, hein, à elle, la femme, tes péchés se trouvent remis. Elle a déjà senti que ses péchés étaient remis, puisqu'elle a manifesté aussi beaucoup d'amour, et dans la logique, celui à qui on remet beaucoup, il manifeste beaucoup d'amour. Elle a senti que ses péchés étaient remis, et voilà la parole déclarative, qui met pleinement la femme en paix. Parce que c'est pas si facile, hein, pour la femme. Elle est là au pied de Jésus, et puis elle sent que Jésus l'accueille, mais que le pharisien, là, il la stigmatise. Et tes péchés, non, se trouvent remis. Ceux qui étaient attablés avec lui commencèrent à dire en eux-mêmes, comme le pharisien, mais qui est celui-ci qui remet même les péchés? Jésus précise à la femme. Il dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Féroute, c'est un vers courant chez lui qui est important, féroute sans cesse, vers une paix. C'est une parole, ta foi t'a sauvée, qui a été dite à la femme hémorroïse qui a osé toucher la frange du manteau de Jésus. C'est une parole qui a été dite précédemment au dixième lépreux. Et c'est une parole, qui sera dite, c'est une parole qui sera dite à la femme hémorroïse, au dixième lépreux et à l'aveugle de Jéricho. Je vous explicite simplement les trois références que vous avez entre parenthèses, les trois renvois de la suite de l'évangile. Alors vous voyez comment la parabole évidemment colle au contexte, et on peut se poser la question quand même de l'ordre, est-ce que c'est le pardon qui vient d'abord et en découle un amour de reconnaissance? Est-ce que c'est l'amour qui vient d'abord, qui pressent le pardon, et en découle le fait que Jésus, sentant ce cœur aimant et ouvert, pardonne? Est-ce que c'est les deux? L'ordre n'est pas exactement le même dans le contexte. Dans l'histoire que Jésus raconte, c'est suite au pardon accordé que vient la reconnaissance, l'amour de reconnaissance. Mais d'accord. Comme il n'avait pas de quoi de rendre, il fit grâce à tous deux. Qui donc d'entre eux l'aimera plus? Mais j'estime que c'est celui à qui il a fait grâce de davantage. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Donc sa grande reconnaissance aura été suite à une remise, un pardon important. Ça, c'est dans la parabole. Mais dans l'épisode, c'est un petit peu différent. Grâce à quoi, je te le dis, se trouvent remis ses péchés nombreux? Parce qu'elle aima beaucoup. Autrement dit, Jésus interprète, peut-être comprendre le pardon octroyé comme en récompense de l'amour montré, ou bien est-ce que ça ne veut pas dire que la femme a déjà compris qu'elle était pardonnée? Et c'est pour ça qu'elle vient près de Jésus et qu'elle verse des larmes de contrition et de reconnaissance à la fois. Ses péchés sont remis parce qu'elle a beaucoup. Je reprends les choses en lisant avec vous à la page 23 un petit texte que j'avais écrit pour la revue Feu Nouveau, qui est une revue qui donne une explication des textes qui interviennent dans la liturgie du dimanche. Et alors là, on demande une contribution à l'exégète, une contribution un peu plus technique qui est attentive au texte. Et puis il y a d'autres contributions qui ont un accent plus spirituel et qui aident éventuellement à préparer l'homélie. Alors ici, ma contribution, ça consistait, j'avais une page, c'est comme toujours, une petite page pour présenter les choses. L'évangile de Matthieu, c'est ce qu'on a fait, offre une parabole de remise de dette, mais pour insister sur le pardon à accorder à autrui. il faut savoir pardonner à celui qui supplie. Ailleurs, avec Marc et Jean, Matthieu rapporte une onction à Béthanie. L'originalité de Luc, dans ce passage qui relie onction et remise de dette, tient dans une parabole qui concerne la juste réception du pardon et que Jésus énonce pour éclairer ce qu'atteste l'onction reçue d'une pécheresse. Bien sûr, le pardon est accordé, il fit grâce à tous deux, mais Jésus va insister sur la manière dont on reçoit le pardon qui est offert, qui est accordé. C'est lors d'un repas, occasion fréquente d'interpellation forte dans le troisième évangile. Que la femme soit pécheresse et que le Seigneur accepte ses marques d'affection, voilà ce qui heurte le pharisien qui reçoit Jésus et donne lieu à l'enseignement ici rapporté. L'épisode se déroule en quatre temps. D'abord, la problématique de départ. Le cadre, il est invité chez un pharisien, l'intervention de la femme, la réaction intérieure du pharisien. Tout ça avant que Jésus prenne la parole. Et c'est à la vue de ce qui se passe que Jésus parle. Deuxième étape. Puis la parabole, sur l'enjeu de laquelle Jésus interroge Simon lui-même. Et Simon sait répondre et répond avec justesse, reconnaît Jésus. Ensuite, à la lumière de cette parabole, le commentaire où Jésus interprète les attitudes opposées de Simon et de la femme. Tu vois cette femme, il rappelle ce qu'elle a fait, et toi, tu n'as même pas fait, je dirais, le minimum. Il ne demandait pas à Simon d'en faire autant qu'à la femme, hein? Mais il demandait au moins qu'il marque un peu plus d'affection selon les gestes ordinaires. Enfin, le dénouement par la parole dite à la femme et la réaction qu'elle suscite alentour. Et puis la confirmation de la foi de la femme. Le narrateur nous signale d'emblée que la femme est une pécheresse connue. Si nous nous reconnaissons nous aussi pécheurs graciés, nous pourrons ainsi pressentir le sens de ces gestes d'affection soigneusement décrits et adhérer à l'intelligence que Jésus a et laisse voir de ses gestes. Rien qu'en se laissant faire, Jésus comprend la portée de ce que la femme veut faire et il accepte avec simplicité, tout en sachant que ça risque de scandaliser. Le pharisien réduit l'identité de la femme à sa condition pécheresse et sans doute parallèlement l'identité ne fût-ce que prophétique de Jésus. S'il était prophète, on ne croit même pas à son identité prophétique. Jésus va lui manifester que lui, le pharisien, il méconnaît sa propre identité en se trompant sur la qualité de cœur de cette femme, en se trompant sur la lucidité de Jésus et sa bonté. Et il ignore en même temps le fond de sa propre identité qui est d'être un pécheur promis au salut. Parce que dans la parabole, les deux débiteurs sont insolvables et se voient remettre leurs dettes. Donc, attablé chez le pharisien, Jésus était là pour lui remettre ses fautes aussi à lui. Même si ça ne devait pas être déclaré. Interrogeons le rapport entre l'amour et la remise de dettes. C'est ce que je viens d'essayer d'énoncer. Dans la parabole, la mention de l'amour est subséquente à la remise de dettes. C'est un amour de reconnaissance pour la grâce reçue, semble-t-il. Mais alentour, sur la scène de, non pas parabolique mais évangélique, alentour, l'ordre est inverse, tant dans l'épisode que dans la manière dont Jésus va le commenter après. Les marques d'amour de la part de la femme et leur absence de la part de Simon viennent en premier. Jésus dit d'ailleurs, si ses nombreux péchés sont pardonnés, c'est parce qu'elle a beaucoup aimé, à cause de son grand amour. Et ensuite seulement, Jésus déclare ses péchés remis. Alors, l'amour précède-t-il ou suit-il la remise de dette? Les deux, semble-t-il, les deux semblent nous dire la complémentarité entre l'épisode et la parabole. Dans la foi que Jésus révèle à l'entourage, à la fin, ta foi t'a sauvé, il le dit, tout le monde qui entend l'écoute, l'apprend. Dans la foi, l'amour repentant pressent le pardon d'avance offert. Et en accueillant ce pardon, l'amour fait écho au pardon une fois reçu, qui est un salut, source de paix. Va en paix, dit Jésus. Et donc, c'est des larmes de contrition qui appellent le pardon et de gratitude en même temps, qui reconnaissent le pardon. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Comprenons le reproche qu'annonçait ce vis-à-vis. Jésus ne demandait pas à Simon d'aussi grande marque d'affection que celle reçue de la femme. Les reproches des versets 44 à 46 s'opposaient seulement au grand amour de la femme, un minimum d'amour, mais que Simon n'a même pas montré. Il ne s'est même pas reconnu débiteur de 50 deniers, ni donc même capable d'amour en proportion. Il a méconnu l'identité du bon créancier, l'identité de bon créancier de celui qui avait accepté son invitation pour lui faire miséricorde à lui aussi. Or, l'étonnante identité de Jésus, c'est que, plus encore qu'un prophète, il est celui qui est venu remettre même les péchés. Qui donc est celui-là pour remettre les péchés? Donc, ils ont révélé l'identité de la femme, une pécheresse aimante et pardonnée, l'identité de Simon, qui est un pécheur appelé lui aussi à ouvrir son cœur au pardon, et l'identité de Jésus, qui non seulement est un prophète, alors que Simon en était, mais qui est celui-là qui remet les péchés, et on sait bien que Dieu seul peut pardonner, remettre les péchés. Donc c'est ça, cela aussi qui est révélé dans l'épisode. Remettre même les péchés, et les péchés de tous, sans exception. À sa manière, Jésus dit à Simon, comme Nathan disait à David, c'est toi cet homme, et bien le deuxième créancier, c'est toi cet homme. Le deuxième débiteur. Voilà pour ces deux épisodes. Donc vous voyez qu'il y a de part et d'autre une histoire de remise de dette pour illustrer le pardon. Et à Pierre, ça insiste sur l'aptitude à pardonner à son frère et ici l'aptitude à se savoir en besoin de pardon et accueillir le pardon et en être reconnaissant du salut. Voilà, donc nous n'avons pas pour la semaine prochaine, c'était prévu. Et comme le père Bernard Portier disait, si ça vous va, on verra l'évolution des choses, de revenir dans 15 jours, vous serez là. S'il y avait un contre-ordre, des mesures drastiques, bon, je vous aviserai. Voilà.